Les séminaires du Collège de France.
Merci d'être resté pour cette seconde partie, pour le séminaire. J'ai le grand plaisir d'introduire Philippe Lusson, qui va nous parler aujourd'hui. Philippe Lusson est un philosophe de l'esprit, il est spécialiste de l'action. Je parlais un peu de l'action tout à l'heure. Et il va nous parler aujourd'hui du désir et de savoir ce que l'on veut. Philippe enseigne à l'antenne parisienne de New York University et j'ai hâte d'entendre ce qu'il a à nous dire sur ce sujet, étant donné le résumé très intéressant qui a été rendu disponible sur le site du collège. Philippe, à toi.
Merci beaucoup. Alors, je remercie François Recanati pour son invitation et vous-même d'être venu m'écouter. Alors oui, je vais parler de savoir ce que l'on veut. Je vais parler d'épistémologie du désir et je commets là l'anglicisme qu'a pointé François Recanati tout à l'heure. Je parle de la connaissance de ses propres, qu'on prend à ses propres désirs. J'utilise épistémologie dans ce sens plus anglo-saxon que français. Et je vais m'intéresser en particulier à un phénomène qui est l'acquisition de désirs par expérience. Et je vais soutenir que ces désirs peuvent présenter une certaine opacité et je vais m'intéresser aux manières dont on peut percer cette opacité, donc on peut élucider l'objet de son désir. Donc je vais soutenir l'idée que c'est plus difficile qu'il ne peut y paraître de connaître parfois l'objet de son désir, que ça va demander un investissement cognitif et parfois aussi des actes exploratoires, des actes pour explorer son environnement et essayer de voir ce qui peut satisfaire notre désir. En exergue, j'ai trouvé cette citation du romancier et essayiste victorien Samuel Butler. Il n'y a pas plus grande marque d'un imbécile que de penser qu'il peut dire immédiatement et avec aisance ce qui va lui plaire. Le reste de la citation donne une portée tout à fait grandiose à ma présentation à laquelle je ne m'associe pas. Cette idée que c'est plus difficile qu'il n'y paraît de savoir ce qui va nous plaire, ce qui va répondre à nos désirs, c'est ce que je vais essayer d'élucider dans un premier temps. Et ensuite, je vais parler de cet investissement cognitif qu'on pourrait faire. Je vais essayer de voir comment les théories existantes sur l'épistémologie du désir peuvent répondre à mon problème. Et ensuite, je vais m'intéresser à cette idée qu'il faut les complémenter avec des actions exploratrices et je vais essayer de comprendre comment elles peuvent être motivées. Alors d'abord, dans un premier temps, finalement assez long, je vais parler de l'obstacle qui se présente à nous. Alors j'utilise le mot « désir » ici, à la manière des philosophes, pour parler en fait de l'ensemble des attitudes mentales qui vont nous motiver de manière intrinsèque, non instrumentale, à faire certaines choses ou à consommer certains objets ou à poursuivre certains buts. Peut-être parfois aussi à éviter certaines choses, il pourrait y avoir des attitudes d'aversion, je ne vais pas en parler. Dans la langue française, je crois que cette idée de ce concept philosophique de désir, il est assez bien capturé par l'usage du mot « envie ». Quand on dit qu'on a envie de quelque chose, on parle de ces désirs intrinsèques. Et je mets de côté les désirs instrumentaux, s'il y en a, que les philosophes appellent aussi extrinsèques. Je peux désirer une chose, non pas pour elle-même, mais comme moyen en vue d'une fin. Ce qui va m'intéresser, c'est le désir que je peux avoir de cette fin, donc ce désir que les philosophes appellent intrinsèque. Alors je vais prendre ces désirs au sérieux, c'est-à-dire que je vais supposer que ce sont des vraies entités mentales, des particuliers mentaux, qui sont dotés d'un contenu représentationnel. Je vais en parler comme des états qui représentent quelque chose. En fait, je vais un petit peu complexifier cette idée. Et que ces états mentaux participent en fait des processus qui causent le comportement. C'est-à-dire que ces désirs font partie de la motivation qui est une des racines du comportement humain. Alors je vais m'intéresser en particulier aux désirs qui sont acquis par l'expérience parce que je pense qu'ils vont présenter cette opacité d'une manière particulière, ils vont poser le problème sous une version assez particulière et je vais m'attacher à eux. Je vais donner quelques autres exemples aussi de désirs qui me paraissent aussi présenter une opacité, pas pour les mêmes raisons, et peut-être que les solutions qu'on pourra apporter à cette opacité seront différentes, mais je vais quand même les donner pour vous donner une idée de la portée éventuelle de cette idée d'opacité, un peu au-delà de mon propos aujourd'hui. Alors cette idée d'opacité, c'est simplement l'idée que les désirs vont avoir une propriété importante, en particulier importante pour l'agent et pour les actions que ce désir va motiver, qui vont être opaques pour lui assez régulièrement. Alors voici un premier exemple de désir acquis par l'expérience qui me semble présenter cette opacité. Marie a fait l'expérience pour la première fois de la cuisine sichuanaise, elle a été invitée dans un restaurant sichuanais, et cette cuisine suscite chez elle un nouveau désir qui va incliner Marie à retourner dans le même restaurant. Alors peut-être qu'au début, c'est plutôt une disposition à désirer, parce que quand elle sort du restaurant, elle n'a peut-être pas tout de suite envie d'y retourner. Mais plus tard, disons une semaine après, elle va pouvoir avoir ce désir, occurrent cette fois-ci, de retourner dans le même restaurant. Peut-être dans d'autres restaurants qui se présentent de la même manière ou qui sont situés dans la même rue. C'est-à-dire qu'en fait, elle a formé une certaine conception du type de restaurant dans lequel on l'avait emmené. Et c'est l'objet de son désir. Enfin, c'est-à-dire que c'est ce type de retourner dans ce type de restaurant va être ce que son désir va motiver. Mais en fait, il se trouve que ce désir serait tout aussi bien satisfait par un ensemble d'expériences culinaires dont les contours sont assez flous pour Marie, en fait. Parce qu'elle n'a pas la connaissance précise des propriétés gustatives qui ont pu susciter son appréciation, ni la connaissance des traditions culinaires, de la manière dont d'autres traditions pourraient être similaires ou différentes de la tradition culinaire qu'elle vient de rencontrer, ou des différentes combinaisons d'ingrédients. Donc en fait, ce désir motive certaines actions chez elle, et il se satisferait de certains résultats, mais les deux ne coïncident pas parfaitement. Je vais donner trois exemples au total. Là, je vais en donner un qui est outrancier. C'est-à-dire que c'est un exemple très peu réaliste, mais qui me permet de parler en termes très simples, parce que c'est un exemple dans lequel je vais supposer que ce qui va satisfaire le désir est en fait très très précis, et on peut en parler de manière très simple. On a un concept très précis pour décrire ce qui satisferait ce désir. Je fais l'hypothèse que cet agent complètement bizarre, Sophie, a accumulé un certain nombre de dispositions à désirer un certain nombre d'aliments, comme le parmesan, les tomates séchées, la marmite, etc. Mais qu'en réalité, chaque fois qu'elle a un désir occurrent pour une de ces choses, en fait, ce qu'elle désire vraiment, ce qui va vraiment la satisfaire, c'est en fait le glutamate monosodique qui est en quantité inhabituelle dans chacun de ces aliments, en fait. Donc en fait, ce qui va satisfaire son désir, c'est le MSG. Et son désir qu'elle a à chaque fois, par exemple pour le parmesan, en fait, se satisferait de la consommation de n'importe quelle source de MSG. C'est un exemple complètement irréaliste, mais du coup, ça me donne en trois lettres la possibilité de parler de ce qui satisferait de son désir. Et je vais vous donner un dernier exemple qui a le mérite de ne pas être un exemple culinaire et qui a aussi le mérite de ne pas être inventé par moi. C'est-à-dire que du coup, je l'ai trouvé quelque part, ce qui permet aussi de donner peut-être un peu plus de crédit à la manière dont je décris l'expérience. Alors, j'ai trouvé dans les mémoires d'une oboïste désargentée à New York dans les années 90, Blair Tindall, qui décrit dans un des chapitres cette scène où elle est en vacances et elle a ramené dans sa chambre d'hôtel un homme qu'elle expose accidentellement à la musique classique pour la première fois de sa vie. Elle met la musique et puis elle s'attendait pas du tout à ça, mais c'est les premières mesures de la 6e symphonie de Mahler qui démarre. Et puis il se trouve que cet homme, Eric, est complètement scotché par cette musique qu'il a jamais entendue. Il demande « Pourquoi j'ai jamais entendu ça? Qu'est-ce que c'est ?» Et puis débute tout au long du chapitre une sorte d'éducation musicale d'Eric où il va découvrir cette nouvelle musique. Alors ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est que immédiatement, en faisant cette expérience, Eric forme un nouveau désir pour lequel il est en fait incapable de vraiment formuler un objet à ce moment-là, autre que « je désire écouter cette musique », qui est une expression indexicale qui au départ, dans l'extrait que j'ai cité, est en fait ancré dans juste deux pièces orchestrales du même compositeur, la 6e symphonie et la 5e symphonie de Mahler. Et si on se demande quel est l'objet du désir d'Eric, en un certain sens, Eric est motivé à continuer à écouter la musique qu'il entend, il est motivé à demander à Blair de remettre la musique qu'elle a interrompue parce qu'elle ne voulait pas mettre de la musique classique. Peut-être que si elle lui a expliqué que le compositeur c'était Mahler, eh bien Eric désire écouter la musique de Mahler. Voilà les actions que motive son désir pour l'instant, c'est assez limité. Mais je pense que l'objet de son désir ne s'arrête pas là. Quand il parle de cette musique, en fait, il désigne un ensemble de musiques qui vont partager des propriétés qui ont retenu son attention et qui ont suscité ce désir quand il a entendu, comme ça, au hasard, les premières mesures de la 6e symphonie de Mahler. Donc lui aussi, il est dans cette situation peut-être encore plus radicale que Marie dans la mesure où il n'a même pas vraiment formé un concept non indexical de ce qu'il désire. Lui, il est juste capable de parler de cette musique. Il n'est pas vraiment capable d'y penser autrement. Alors, ça, c'est les trois exemples qui vont vraiment m'intéresser. C'est des exemples de désir acquis par l'expérience. On fait une expérience qui est plaisante et ça suscite un nouveau désir. Et je vais m'intéresser à l'opacité de ces désirs-là qui sont suscités par l'expérience. Je pense néanmoins que cette opacité, elle n'est pas simplement liée à ces cas-là de désir acquis par l'expérience, par un agent qui est peu familier d'un domaine, par exemple culinaire ou esthétique. Et donc, juste à titre d'illustration, je vais vous donner trois exemples du même genre d'opacité dans des contextes différents. C'est pas de ces exemples-là que je reparlerai plus tard. Alors, je pense en premier lieu qu'il y a plein de désirs qui, par facilité, vont prendre pour objet un objet saillant ou qui est suggéré par l'environnement, mais qui pourrait en fait se satisfaire de substituts si cet objet s'avère ne pas être accessible. Alors, si je reprends l'exemple qu'a donné François Recanati tout à l'heure dans le cours de désirer une bière, en fait, je pense que dans plein de cas, on va faire l'économie de la première étape du raisonnement instrumental qui avait été décrit. C'est-à-dire qu'on n'a pas en fait un désir de se désaltérer et on pense que la bière va nous désaltérer. On a tout de suite un désir de bière en fait, parce que on pense qu'il y a de la bière dans le frigo, donc il y a un objet saillant sur lequel peut tout de suite se fixer notre désir. Mais si ce désir ensuite est frustré parce que quand j'ouvre le frigo, il s'avère qu'il n'y a pas de bière, en fait, je vais pouvoir trouver un substitut. Un substitut qui va satisfaire ce désir qui au départ était un désir de bière, mais finalement je vais pouvoir le satisfaire avec autre chose que de la bière. L'exemple que j'avais sur la slide, c'était si vous allez à la bibliothèque, vous voulez emprunter un livre qui n'est plus disponible, le ou la bibliothécaire va parfois être capable de vous trouver un substitut acceptable, c'est-à-dire de répondre à votre désir sans vous donner le livre qui était pourtant l'objet de votre désir. Là, l'opacité, en fait, on arrive à la percer. C'est pour ça que c'est pas forcément l'exemple qui va m'intéresser le plus, parce que quand vous trouvez un substitut, vous avez percé l'opacité. Mais au départ, vous aviez quand même cette divergence entre ce que le désir motivait et ce qui pouvait le satisfaire. Un autre exemple, ça pourrait être que parfois, on peut avoir un désir pour un bien matériel qui en motive l'acquisition, mais en réalité, ce qui satisferait vraiment ce désir, c'est en fait le statut social que l'on attache à ce bien matériel. C'est pas le bien matériel lui-même. Et puis, il peut aussi y avoir, troisième exemple, certaines incongruités dans ce qu'un agent, même très familier d'un domaine, sait satisfaire son désir, que l'agent lui-même est en fait incapable de s'expliquer. Par exemple, même si on connaît très bien la musique classique, on peut ne pas avoir de bonne explication pour expliquer pourquoi, par exemple, on aime l'art de la fugue et pas les variations Goldberg. Il y a quelque chose dans l'art de la fugue qui répond à notre désir d'écoute, et les variations Goldberg n'y répondent pas, mais on ne peut pas mettre le doigt sur ce dont il s'agit. Donc ça, c'est des exemples d'opacité dans des contextes différents. Et il y a des choses que je vais dire qui pourraient s'appliquer, d'autres qui ne s'appliqueront pas. Moi, je vais vraiment m'intéresser à ces désirs acquis par l'expérience. Alors avant d'essayer d'élucider un petit peu l'objet du désir, je vais répondre à quelques objections à la manière dont j'ai décrit en fait ces cas. Alors, est-ce qu'on a vraiment affaire à une propriété du désir lorsque je dis que Marie se satisferait d'un certain nombre de résultats culinaires que son désir ne motive pas. Est-ce que c'est vraiment une propriété de son désir? Il me semble que oui. Il me semble que lorsqu'elle va faire l'expérience d'un certain type de satisfaction qui était en fait recherché par les actions que motivaient son désir, et bien c'est son désir qui est satisfait, même s'il n'a pas été satisfait par les actions que motivaient son désir. On va dire, j'ai envie de dire que ces résultats répondent à son désir. On pourrait dire de manière familière que l'expérience fait le job, elle répond à ce désir. Pour utiliser un anglicisme, elle gratte là où ça démange. Parfois, on pourra dire de certains résultats aussi qu'ils anticipent le désir, qu'ils satisfont le désir avant que le désir ait pu motiver une action. Et pour soutenir aussi cette idée, je pense qu'il y a une autre trace intéressante en anglais de cette propriété cachée du désir, cette satisfaction caché, c'est qu'en fait, on peut utiliser en anglais le verbe qu'on utilise pour parler des envies, le verbe want, pour donner des conseils à des gens. C'est-à-dire qu'on peut attribuer à des gens des envies qu'on sait qu'ils n'ont pas, mais pour les conseiller à faire quelque chose. Alors, c'est très souvent pour des raisons instrumentales. L'exemple que donne Ethan Jerzak, par exemple, c'est qu'il désire amener à un dîner un vin particulièrement adapté à un plat. Mais lui, il connaît rien en vin, donc il demande au vendeur qu'est-ce qui pourrait se marier avec tel plat. Et le vendeur lui répond en utilisant cette construction « Oh, you want this wine ». C'est l'instrument qui répondra à son envie, et donc le vendeur lui attribue une envie qu'il sait que Ethan n'a pas. Mais il me semble que parfois aussi, on va utiliser cette construction pour essayer de percer l'opacité du désir d'autrui, en fait. On va attribuer à autrui une envie qu'on sait qu'il n'est pas capable de formuler, mais parce qu'on se dit, ouais, il a envie de choses, et ça va pouvoir y répondre. Par exemple, Blair pourrait dire à Eric, « You want to listen to Bruckner ». Il y a une dimension instrumentale, mais il y a aussi une dimension de percer l'opacité de ce désir. Alors on pourrait aussi objecter que je confonds désirer et apprécier, et je reconnais tout à fait que désirer n'est pas apprécier. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que chaque désir vise un certain type d'appréciation ou un certain type de satisfaction. Et donc, il me semble que, par exemple, quand Eric et Marie désirent l'appréciation qui est visée par leur désir, quand ils agissent motivés par leur désir, ils visent un certain type de satisfaction qu'ils savent être produite par la musique de Mahler ou le fait de se rendre dans ce restaurant. Mais cette satisfaction, en fait, elle pourrait aussi être produite d'autres manières. Au contraire, si cette fois-ci je prends l'exemple de Sophie, si elle consomme un parmesan qui est pauvre en MSG, c'est son désir qui va être frustré. Elle a eu ce qu'elle voulait dans le sens où elle a fait ce que son désir motivait, mais elle n'a pas eu la satisfaction que visait ce désir. Et donc, en fait, c'est son désir lui-même qui va être frustré. Donc, il me semble que cette visée de satisfaction, c'est vraiment une propriété du désir. Une manière de contourner ce que je viens de dire, ça serait de dire, peut-être que le désir vise une satisfaction générique. Il ne vise pas une satisfaction particulière. Et donc, en fait, on n'a pas un objet caché du désir, on a simplement le fait que chaque désir cherche la satisfaction et puis il la cherche dans un objet particulier. Il ne me semble pas que ça soit adéquat non plus. Il me semble que chaque désir vise un type précis de satisfaction. Même si l'agent n'est pas capable d'articuler ce type de satisfaction, ce n'est pas la satisfaction en général qui est visée. C'est un type de satisfaction précis. Par exemple, si Marie a une expérience étrange, lorsqu'elle mord dans ce morceau de parmesan, elle a la satisfaction qu'elle retirerait de mordre dans une tomate mûre, en fait, ça ne va pas répondre à son désir. C'est peut-être une expérience très plaisante parce qu'elle aime beaucoup les tomates mûres, mais ce n'est pas ce qu'elle recherchait. Je suppose évidemment ici que la tomate mûre n'est pas riche en MSG. Alors, j'ai parlé des désirs acquis par l'expérience, je me suis restreint à ces problèmes, à ce problème précis. Il me semble que c'est néanmoins un problème assez vaste parce qu'on acquiert en réalité une grande partie de nos désirs par l'expérience quand on est un agent humain. Il y a peut-être aussi d'autres animaux qui acquièrent beaucoup de leurs désirs par expérience, mais en tout cas, c'est un trait typique des humains que beaucoup de désirs ne sont pas innés, mais acquis par l'expérience. On rencontre des choses dans notre environnement qui vont susciter de nouveaux désirs. Et un travail que j'aime beaucoup sur cette acquisition des désirs, c'est le travail conjoint du philosophe Richard Holton et du neuroscientifique Ken Berridge, qui porte sur l'addiction, qui en fait incidemment propose un modèle de l'acquisition des désirs qui en fait explique assez bien pourquoi ils présentent cette opacité que j'ai décrite. Alors ça, c'est leur description appliquée à la nourriture, parce qu'ils partent au départ d'un modèle créé à propos du rat, puis ensuite ils l'étendent à l'être humain, mais du coup leur formulation du modèle est centrée sur la nourriture, parce que c'est ça qui occupe le rat. Un système de formation des désirs va avoir besoin d'identifier chaque échantillon comme appartenant à un certain type de nourriture, de déterminer combien de valeurs il retire de ce type, et sur la base de cette détermination, d'envoyer un signal au système qui régule la consommation de ce type de nourriture pour réguler son désir ultérieur pour ce type de nourriture. Alors, Holton et Berridge, ce qui les intéresse, c'est la dernière étape, le signal, parce qu'ils s'intéressent à l'addiction. Ils pensent que ce signal, il est implanté au niveau neurochimique par la dopamine. Et donc, ils expliquent les phénomènes d'addiction, en disant que ce sont les substances addictives libèrent de la dopamine et donc elles prennent en otage le signal, c'est-à-dire qu'elles prennent en otage ce signal de régulation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'addiction et c'est pas la dernière étape, c'est la première cette catégorisation de l'échantillon. À la première étape, on a un mécanisme qui a besoin, sur le vif, de catégoriser et de produire une description de l'élément déclencheur de l'expérience plaisante pour faire l'objet de ce nouveau désir Et donc ce mécanisme, assez rapidement, il doit identifier la cause proximale de l'expérience qu'on est en train de faire. Il doit sélectionner parmi les propriétés de cette expérience celles qui sont pertinentes pour causer cette expérience, celles qui ont vraiment contribué à la production de cette expérience et celles qui étaient contingentes. Et puis il doit proposer aussi un certain niveau d'abstraction par rapport aux détails concrets de ces propriétés. Ces propriétés, elles se sont présentées au sujet avec une concrétude maximale, parce qu'il a fait une expérience très précise. Et il faut que ce mécanisme il fasse un petit peu abstraction, il aille un petit peu au-delà des propriétés précises de l'expérience qui a été faite. Alors ce mécanisme, il doit procéder très rapidement. Je pense qu'il procède de manière encapsulée, c'est-à-dire sur la base d'une information qui n'est pas toute l'information dont dispose le sujet, précisément pour aller vite. Mais dans le cas des sujets peu familiers du domaine, en fait, même s'il avait toute l'information dont dispose le sujet, il n'aurait toujours pas assez d'informations, parce qu'on a affaire à un sujet qui n'a pas les concepts et qui n'a pas la connaissance nécessaire du domaine pour choisir les bonnes propriétés ou faire les bonnes abstractions. Cette idée que la familiarité du domaine est particulièrement importante pour l'épistémologie du désir, c'est une idée qui a été mise en avant par Uku Tuming, et à laquelle je me range complètement en, fait, en parlant de désir acquis par l'expérience par des agents peu familiers. Donc du coup, ce mécanisme, ce qu'il va produire, c'est une représentation approximative de l'objet du nouveau désir. Et chez Eric, il va même produire une représentation indexicale parce qu'il échoue complètement à produire une représentation même approximative. Et cette représentation approximative, elle est très importante parce qu'il faut que le désir puisse motiver quelque chose. Donc le désir, il a besoin de quelque chose de précis à motiver. Mais dans les conditions informationnelles de la création de ce nouveau désir, on ne peut pas faire quelque chose de précis et d'exact. Donc on va faire quelque chose de précis et un peu approximatif. Ça, c'était pour la description de l'obstacle. Maintenant, je vais m'intéresser à la manière dont on peut comprendre cet obstacle en termes plus théoriques, ce que cet obstacle peut nous dire en théorie du désir, puis en épistémologie du désir, puis je vais parler de ces actes exploratoires qui me semblent nécessaires pour les agents peu familiers du domaine. Alors, une première manière d'essayer de redécrire ce que j'ai dit ici, qui tranche avec ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça serait en fait de postuler l'existence de deux désirs. En fait, quand je fais ces expériences plaisantes, je n'ai pas formé un seul désir, j'en ai formé deux. Un qui est intrinsèque et opaque, et l'autre qui est instrumental et transparent, en fait, que je connais. J'acquiers deux nouveaux désirs qui sont tenus entre eux par un lien instrumental. Par exemple, Marie acquiert le désir intrinsèque pour un certain type de nourriture, celui-là est opaque, elle ne sait pas, elle ne connaît pas son objet, elle ne peut pas formuler son objet. Et puis un désir instrumental, ce désir de revenir dans le même restaurant, afin d'y satisfaire ce désir intrinsèque. Alors ce modèle, il a l'avantage en fait de ne pas vraiment produire de conséquences particulières pour la théorie du désir. Il a surtout des conséquences pour l'épistémologie du désir, mais pas tellement pour la manière dont on conçoit les désirs. Mais il ne me semble pas parfaitement adéquat. En fait, je préfère la manière dont j'ai décrit les expériences, les cas jusqu'à présent, une manière où en fait j'ai parlé d'un seul désir. Parce qu'en fait, si on postule deux désirs, il me semble qu'ils sont liés entre eux, ils sont tenus ensemble de manière beaucoup trop étroite pour que ça soit fructueux d'y penser comme à deux états mentaux séparés. En fait, ils sont tellement dépendants l'un de l'autre que je ne vois pas pourquoi on les conceptualiserait comme deux états distincts, deux états mentaux distincts. Parce qu'en l'absence de prise en fait, sur l'objet du désir intrinsèque, ben, en fait, la croyance instrumentale elle va devoir y faire une référence indexicale. La croyance instrumentale que Maria, c'est qu'aller dans ce restaurant pourrait satisfaire ce désir. Elle ne peut pas formuler l'objet de ce désir d'une autre manière. Et en fait, c'est la seule prise qu'elle a sur ce désir intrinsèque, c'est par le biais de son désir instrumental. La seule manière dont elle peut formuler ce désir opaque à ses propres yeux, c'est en se disant que bah, c'est le désir pour le genre de choses qu'on peut trouver dans ce restaurant. En fait, c'est l'instrument qui lui donne en fait, sa seule manière de penser à l'objet de son désir si on pense à ce désir intrinsèque distinct. Donc il me semble que ça crée un lien beaucoup trop étroit entre ces deux désirs pour qu'on puisse en fait... de manière intéressante, postuler en fait deux états mentaux indépendants et même en fait trois, puisqu'il y aurait aussi ce lien instrumental qui devrait faire l'objet d'une croyance instrumentale qui lierait le désir intrinsèque avec le désir instrumental. Un autre argument pour cette idée, c'est de se référer à cette expérience de proposer un substitut à quelqu'un. Cette expérience dont j'ai parlé par exemple pour le ou la bibliothécaire qui essaye de vous proposer un livre qui répondrait à votre désir, mais qui n'est pas le livre que vous avez demandé. En fait, il me semble que quand on a cette expérience d'essayer de proposer un substitut à quelqu'un, on n'est pas du tout en train d'essayer de démonter une structure instrumentale cachée à l'intérieur de cette personne, en fait. On n'est pas en train de percer à jour un état mental qui serait déjà présent chez cette personne, qui déterminerait en fait le genre de livre qu'elle veut lire. Et on n'est pas en train d'essayer de comprendre en fait quelles sont ses croyances instrumentales sur quel type de livre pourrait répondre à ce désir. Non, il me semble qu'en fait, ce qu'on essaye de comprendre, c'est son désir pour ce livre, pour le livre qu'elle a demandé. On essaye de comprendre d'où vient ce désir et en fait ce qui pourrait satisfaire ce désir en particulier. Alors peut-être la manière la plus, la plus saillante pour moi de me convaincre de ça, c'est ce qui se passe en fait quand on essaye d'aider un jeune enfant à élucider l'objet de son désir en fait. Quand un enfant vous demande quelque chose, formule une envie à laquelle vous ne pouvez pas accéder, vous allez essayer de proposer un substitut. Vous allez essayer d'éviter la crise en proposant quelque chose qui puisse satisfaire ce désir. Il ne me semble pas du tout qu'on soit en train d'essayer de comprendre chez ce jeune enfant un désir intrinsèque qui serait caché loin derrière et une croyance instrumentale qui lierait ce désir intrinsèque avec la chose que l'enfant a demandé. Non, l'enfant, il a demandé quelque chose, il a un désir qui est dirigé vers cet objet. Et on essaye de comprendre les autres choses qui pourraient éventuellement satisfaire ce désir. Tout ça, ça m'incline à en fait proposer ce que j'ai en fait décrit jusqu'à présent dans la manière dont j'ai décrit les exemples. C'est un modèle dans lequel le désir est en fait bicéphale. Chaque désir va posséder deux propriétés importantes mais distinctes. Il va motiver certaines actions, ce que je vais appeler son profil de motivation. Et puis il va se satisfaire de certains états de choses, de certains résultats, ce que je vais appeler son profil de réponse, son profil de satisfaction. Ce qu'on pourrait aussi appeler son profil d'évaluation, mais ça serait prendre une position plus controversée sur la nature du désir, puisqu'on supposerait que le désir est capable de faire des évaluations, c'est-à-dire de qualifier des états de choses comme étant bons ou mauvais. Donc je ne vais pas parler de profil d'évaluation, mais ça serait une manière intéressante de développer cette idée d'un profil de satisfaction. Évidemment, en fait, pour être tout à fait exact, il faudrait en parler en termes de gradation. En fait, il y a des objets qui vont plus ou moins satisfaire le désir. Le profil de satisfaction, ce n'est pas oui ou non. Moi, je vais parler en termes catégoriques parce que c'est beaucoup plus simple. Mais si on veut être précis dans la description de ce profil de satisfaction, je pense qu'il faudrait le comprendre de manière graduée. Et ce que je soutiens, donc, c'est que ce désir, un désir acquis par l'expérience, il va souvent présenter un écart entre ces deux faces. Il va souvent y avoir un écart entre ce que le désir motive et ce qui pourrait le satisfaire. Alors ces deux phases du désir, en fait, elles sont bien connues des théoriciens du désir. Quand j'ai parlé de phases du désir, en fait, j'ai fait implicitement référence au travail de Timothy Schroeder, qui parle des trois phases du désir, parce qu'il en ajoute une troisième. Mais en fait, la plupart des théoriciens du désir, ils ne reconnaissent pas la possibilité d'un écart entre elles, en fait. Ils travaillent pour les réduire l'une à l'autre, ou pour en éliminer une des deux, ou, comme Schroeder par exemple, pour réduire les deux faces à une troisième. Qui est chez Schroeder, l'idée que certaines choses sont constituées comme des récompenses dans un certain système cérébral. Donc en fait, les théories du désir, en général, elles essayent de donner une conception du désir qui permet d'unifier le profil du désir et qui ne permettent pas d'avoir un écart entre les deux. Si vous avez, par exemple, une théorie motivationnelle du désir, ce qui est pertinent, c'est ce que le désir motive. Et puis, éventuellement, si vous parlez de satisfaction, en fait, vous allez parler en termes de ce que le désir motive. C'est-à-dire que vous reconnaîtrez comme satisfaisante les actions que le désir motivait. C'est-à-dire, si le désir motivait une certaine action, eh bien, il se satisfera du résultat de cette action, quel qu'il soit. Jusqu'à présent, ce que j'ai soutenu, c'est l'idée qu'il puisse y avoir un écart. Donc, que ces théories, en fait, sont inadéquates et trop simples. Elles peuvent parfaitement rendre compte de certains aspects du désir, mais il me semble qu'il faut les enrichir pour rendre compte de la possibilité de deux faces qui ne seraient pas parfaitement coordonnées. Cette possibilité, elle est peut-être plus saillante si on a le concept du désir comme un concept agglomérat avec un certain nombre de traits, mais pas forcément tous essentiels ou tous liés entre eux, comme Alan Goldman. Mais l'auteur qui s'est le plus rapproché de ce que je propose ici, c'est Lloyd Humberstone, parce que dans un article de 1990, il a reconnu la possibilité d'un écart, pas entre les objets que motive le désir et qui peuvent satisfaire le désir, mais entre leur magnitude. C'est-à-dire qu'il a soutenu l'idée que, en fait, quand on parle de la force d'un désir ou l'amplitude d'un désir, en fait, c'est ambigu, on peut parler de deux choses différentes. On peut parler de la force de motivation que procure ce désir, à quel point il me motive, et on peut parler aussi de l'intensité de la satisfaction que me procurerait ce désir s'il était satisfait. Et les deux ne sont pas forcément corrélés entre eux, ne sont pas forcément en adéquation. Moi, j'ai envie d'ajouter l'idée que les objets, en fait, ne peuvent ne pas être en adéquation non plus. Alors, pour en dire un tout petit peu plus de ces deux profils, le profil de motivation, en fait, c'est assez simple à décrire, c'est ce qui guide l'agent dans la réalisation de son désir. Donc, en fait, c'est la représentation du but à atteindre qui va pouvoir interagir avec le raisonnement pratique instrumental, comme l'a décrit François Recanati tout à l'heure, et puis avec toute la machinerie de l'action, en fait, tout ce qui permet à l'agent d'agir. Le profil de satisfaction, c'est plus nébuleux, ça caractérise l'ensemble des états de choses qui procuraient au désir sa satisfaction au sens ordinaire, pour prendre l'expression de William Lycan. C'est-à-dire pas la satisfaction du désir dans un sens purement sémantique et formel, où ce qui était visé a été obtenu, mais au sens où l'agent se satisfait de ce qui a été obtenu. C'est-à-dire que c'est des expériences ou c'est des résultats qui vont mettre un terme au désir, nous dit Ashley Shaw, de manière normale. C'est-à-dire pas parce que j'ai arrêté d'avoir envie de la chose, mais parce que j'ai eu ce dont j'avais envie. Et je pense qu'il faut ajouter aussi que ça peut mettre un terme au désir de manière normale, ça peut aussi faire basculer le profil de motivation vers la continuation de l'état de choses présent. Donc on peut parfaitement avoir une envie, on a ce dont on a envie, mais le désir ne s'éteint pas parce qu'on a envie que ça continue. On a envie de continuer à écouter la musique de Mahler. Donc à ce moment-là, ce qui marque que le désir se satisfait de cette expérience, c'est que son profil de motivation bascule en fait vers la conservation de l'état de choses actuel. Ça diffère évidemment du plaisir pris à un objet, et donc on ne peut pas donner de ce profil de satisfaction une théorie hédonique très simple, selon laquelle en fait désirer cette satisfaction, ça serait prendre du plaisir à cette satisfaction, parce que c'est un type particulier de plaisir qui est visé, un type particulier de satisfaction. Je parle plutôt de satisfaction que de plaisir, parce que je veux être un peu moins précis dans la manière dont je décris cette satisfaction. Je veux me satisfaire d'expériences qui sont peut-être satisfaisantes, mais pas plaisantes au sens ordinaire. Et ce profil de satisfaction, du coup, c'est une propriété dispositionnelle du désir. En fait, il y a des cas où on a peut-être même envie de dire que le désir change, en fait, quand je découvre une nouvelle expérience qui peut le satisfaire. Et c'est vrai que le désir change, par exemple, si je me suis convaincu par le ou la bibliothécaire que cet autre livre serait un substitut valable, mon désir change. En fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'il avait la propriété, avant ce changement, de pouvoir changer de cette manière-là. Le désir que j'avais pour ce livre, il pouvait se satisfaire de sept autres livres, mais pas d'un troisième. Il avait, avant le changement, il avait cette capacité à se satisfaire de certains ouvrages et pas d'autres. Comme c'est une propriété dispositionnelle, ça explique en partie pourquoi elle est opaque. Il y a Jared Peterson qui a écrit un article pour soutenir que, en gros, l'opacité du désir était principalement due à son caractère dispositionnel. Et si on n'avait pas une théorie dispositionnelle du désir, c'était facile de répondre au problème de l'épistémologie du désir. En fait, là, moi, ce que je pointe, c'est une propriété dispositionnelle du désir. Et donc, ça explique assez bien pourquoi elle est opaque ou pourquoi elle peut être opaque. Cette propriété, on peut la caractériser en termes sémantiques. On peut parler d'un deuxième contenu du désir. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Mais si on la capture en termes sémantiques, ça ne sera pas une représentation du même genre et au même titre que le profil de motivation. Le profil de motivation, il représente de manière précise un objet et il peut interagir avec le raisonnement pratique. Le profil de satisfaction, si on le comprend en termes représentationnels, on ne peut pas le comprendre en termes d'une représentation qui interagit aussi facilement avec les autres représentations de l'agent. C'est précisément le nœud du problème. Alors, une toute dernière manière de comprendre le problème qui, en fait, souligne son caractère pratique important pour l'agent et qui n'est pas sémantique, c'est en fait de résumer ce que je viens de dire en disant qu'en fait, j'ai présenté le désir comme une unité de contrôle imparfaite. Une unité de contrôle, c'est le nœud d'une boucle de contrôle qui est un concept très important pour comprendre les plans et en fait la théorie de l'action en général. Et la conception classique, très simple, de cette unité de contrôle, c'est le modèle TOAT qui est dû à George Miller et ses co-auteurs dans un des premiers ouvrages modernes sur les plans. Ce modèle TOAT, c'est un modèle Test, Operate, Test, Exit. Qu'est-ce que ça fait une unité de contrôle? Ça teste si un résultat est le cas ou non. Si c'est pas le cas, ça fait une opération. Et après l'opération, ça reteste pour voir si maintenant c'est le cas ou non. Si c'est le cas, on sort, on arrête de contrôler. Si c'est toujours pas le cas, on opère de nouveau. Alors, vous avez un exemple canonique très simple de boucle TOAT en haut à droite. Je teste si le clou est enfoncé. S'il ne l'est pas, je fais une opération, je martèle le clou. Ensuite, je reteste. Le clou est-il maintenant enfoncé? Si ce n'est pas le cas, je remartèle. Si c'est le cas, je sors. Je passe à l'étape suivante. En fait, on voit tout de suite sur cet exemple que la qualité de cette unité de contrôle, elle tient en partie à l'adéquation entre le test et l'opération. Il faut que l'opération puisse avoir tendance à produire le résultat qui est testé. Sinon, l'unité, elle ne va pas marcher. Et en fait, ce que j'ai dit du désir jusqu'à présent, si on le conçoit comme une unité de contrôle, c'est qu'en fait, c'est une unité où il peut y avoir un écart entre le test et l'opération. C'est-à-dire que le test, ça serait ce dont le désir se satisfait. Est-ce que cet objet est satisfaisant? Et l'opération, c'est ce que le désir motive. Et les désirs acquis par l'expérience, par des agents peu familiers, eh bien, il peut présenter un écart entre les deux. Autrement dit, en fait, ce que j'ai fait par rapport au premier modèle, évidemment, c'est que j'ai replaqué la structure instrumentale à l'intérieur du désir, en fait. Quand j'ai parlé de ces deux profils, bah, en fait, j'ai présenté le désir comme présentant à l'intérieur de lui une petite structure instrumentale. Le désir, c'est la motivation à poursuivre un objet avec une certaine visée de satisfaction. Et donc, à l'intérieur du désir, il y a cette portée instrumentale, mais elle est à l'intérieur du désir et elle est opaque pour l'agent et en partie imparfaite. Ce qui explique la nécessité, du coup, pour l'agent, d'essayer d'élucider l'objet de son désir. À cette fin, bah, maintenant, je vais me tourner vers l'épistémologie du désir, la connaissance, comprendre ses propres désirs, et je vais parler d'un certain nombre de théories qui ont été proposées pour expliquer comment nous prenons connaissance de nos désirs, et je vais essayer de les appliquer à ce profil de satisfaction. Je vais essayer de voir si ces théories, elles peuvent répondre à mon problème. Alors, la littérature sur l'épistémologie du désir, évidemment, elle s'est beaucoup développée ces 20 dernières années, mais elle ne répond pas directement à ma question, parce que ma question, je viens de la poser. Et cette littérature ne s'intéresse pas particulièrement à ce que j'ai appelé le profil de satisfaction du désir. Comme la plupart des auteurs aujourd'hui ont une théorie motivationnelle du désir, en fait, assez naturellement, cette littérature, elle porte sur le profil de motivation du désir, en fait, ce que j'ai appelé le profil de motivation du désir. Ce qui est pour la plupart de ces auteurs, en fait, le seul et unique contenu du désir, la seule et unique propriété importante du désir. Mais néanmoins, on peut prendre les propositions qui sont dans cette littérature et voir comment on pourrait les appliquer au profil de satisfaction. Alors, chaque auteur dans cette littérature va proposer sa propre cartographie de l'espace logique, sa propre manière de cartographier, de classifier les différentes propositions. Et moi, je ne vais pas du tout pouvoir faire rendre justice à toutes les nuances qu'il y a dans cette littérature. Donc, je vais la prendre, en fait, avec ma propre cartographie pour mes besoins. Et il me semble que, pour mes besoins aujourd'hui, il y a deux distinctions qui sont importantes parmi les différentes propositions qui ont été faites. Ça, c'est la deuxième. La première, c'est qu'il y a des théories qui présentent la connaissance de ses propres désirs comme assez routinière et assez simple. Ça ne demande pas un effort cognitif particulier. Ça se passe de manière assez évidente, assez fluide. L'épistémologie du désir, c'est pas un problème d'effort cognitif. Et puis, au contraire, il y a des théories du désir qui présentent la connaissance de nos désirs, ou au moins de certains de nos désirs, comme étant quelque chose d'assez difficile, qui peut demander un investissement cognitif, un investissement pour élucider ce que nous désirons, ou alors, dans certaines théories, un investissement pour se décider, en fait, un investissement pratique. Ça serait pas un effort vraiment cognitif pour percer à jour ce que je désire, mais en fait, simplement pour décider ce que je désire vraiment. Un exemple de la première, c'est la théorie de Krista Lawlor. Il y a un effort cognitif à fournir pour savoir ce qu'on désire dans certains cas d'après elle. Un exemple de la deuxième, c'est la théorie de Richard Moran. Il pense qu'en fait, l'effort cognitif, c'est un effort pour se décider, c'est un effort pratique. En fait, il faut que quand j'ai des désirs, ça peut être flou pour moi ce que je désire parce que je n'ai pas encore vraiment décidé ce que je désire. Donc ça, c'est une première distinction. Et évidemment, je vais me ranger du côté des auteurs qui pensent qu'il y a un effort à fournir. Je ne peux pas accepter les théories selon lesquelles la connaissance de son désir, c'est quelque chose de simple et de routinier. Peut-être que c'est simple et routinier pour le profil de motivation, j'ai aucune objection à ça. Mais pour le profil de satisfaction, la manière dont j'ai décrit l'obstacle jusqu'à présent implique qu'il va falloir fournir un effort. L'autre distinction intéressante pour mes besoins, elle sépare en fait des propositions en épistémologie du désir qui sont introspectives. C'est-à-dire quand je veux connaître mes propres désirs, je tourne mon regard vers l'intérieur de mon esprit. Et je cherche, en inspectant mon esprit, à connaître mes désirs. Alors, ça peut se faire de tas de manières différentes que je ne vais pas pouvoir détailler, par accointance, avec peut-être un sentiment intérieur, parce que mon désir tend à s'auto-présenter à moi-même si je suis une créature rationnelle. Mais aussi, peut-être, en fait, par inférence, parce que je vais fournir un effort cognitif d'auto-interprétation. Je vais me tourner vers mon propre esprit, et puis je vais devoir faire des inférences sur mes désirs sur la base de ce que je trouve dans mon propre esprit. Ça, c'est ce que propose Krista Lawlor, par exemple. À toutes ces propositions introspectives s'opposent des propositions extrospectives, selon lesquelles le sujet va se tourner non pas vers son propre esprit, mais vers le monde. En fait, quand il se pose une question sur ses désirs, il ne se tourne pas vers ce qui peut être le contenu de son esprit, mais il se tourne vers le monde. Ce sont en fait ces propositions des applications au désir de la très célèbre suggestion de Gareth Evans à propos des croyances. L'exemple de Gareth Evans à propos des croyances, c'était si on me demande si je crois qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, ben en fait ce que je fais, c'est pas que j'inspecte mon propre esprit pour voir si j'ai cette croyance ou non. Non, c'est que je me pose la question, va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale ? Je me pose une question sur le monde et je considère les raisons que je peux avoir en fonction de ce que je sais sur le monde pour penser ou non qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Beaucoup d'auteurs, en fait, ont pris cette idée de Gareth Evans, que Richard Moran appelle la condition de transparence. Il y a une transparence au monde de la question « est-ce que je crois qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale ?» ou « est-ce que je désire ?» Et ils l'ont appliqué au désir. Donc, quand je me demande ce que je désire, en fait, peut-être que je me demande ce qui est désirable. Ça, c'est la version assez simple d'Alex Byrne. Ou peut-être, je me demande plutôt ce qui me paraît désirable. Je m'intéresse aux apparences de désirabilité. Ça, c'est la modification qu'apporte Lauren Ashwell à cette théorie. Et puis, soit cette réponse me révèle mon désir, ça, c'est ce que pense Bernie Ashwell, ou alors elle constitue mon désir. Parce qu'en fait, en apportant la réponse à cette question, en fait, j'ai donné plus de précision, plus de contenu à mon désir, et donc, en fait, je l'ai constitué. Alors, pour mes besoins, les théories introspectives non inférentielles, comme je l'ai déjà dit, je ne peux pas les utiliser parce que ça revient en fait à nier l'obstacle dont j'ai parlé jusqu'à présent. Peut-être qu'elles s'appliquent encore une fois au profil de motivation. Mais ce qui satisfait le désir est opaque pour l'agent, donc il ne va pas pouvoir avoir un accès introspectif non inférentiel, ça serait trop facile. Eric ne peut pas, en faisant un retour sur son propre esprit, déterminer quelles sont les propriétés des expériences musicales qui le satisfont. Les propositions extrospectives constitutives, donc celle de Richard Moran par exemple, elles me pensent aussi supposer une malléabilité du profil de réponse du désir qui n'est pas plausible en fait. Quand j'arrive à une réponse à la question de ce qui est désirable, je ne peux pas en fait modifier mon désir pour en fait le mettre en adéquation avec cette conclusion. Si le désir d'Eric pourrait se satisfaire de la musique de Bruckner, eh bien, c'est comme ça. C'est pas lui qui, en se décidant sur la question de savoir si la musique de Bruckner est désirable, et qu'il est désirable d'écouter la musique de Bruckner, c'est pas lui, en répondant à cette question, qui va changer le profil de satisfaction de son désir. Le profil de satisfaction, il est présent, et en fait, il s'agit de l'élucider, pas de le manipuler, pas de le changer. Donc, en fait, il me reste les propositions inférentielles. Ce qui va m'intéresser, c'est de savoir si on peut percer à jour le profil de satisfaction de son désir quand il est opaque, soit à partir des pensées qui nous traversent l'esprit, ça c'est ce que propose Krista Lawlor, soit à partir de ma réponse à la question de ce qui me paraît désirable, ce que propose Byrne, ou ce qui me paraît désirable, ce que propose Ashwell. Alors, la position de Krista Lawlor, elle est très intéressante et elle me paraît en fait apporter des éléments importants. Par ailleurs, c'est une position pluraliste. Elle ne prétend pas décrire toutes les manières dont on connaît ses propres désirs, mais simplement une. Donc en fait, c'est compatible avec beaucoup d'autres choses. Mais néanmoins, il me semble que pour mes besoins aujourd'hui, cette proposition, elle est incomplète. La base inférentielle qu'elle propose ne va pas suffire. Les pensées qui vont traverser l'esprit de Marie ou Eric, elles peuvent leur donner des indices sur ce qui leur apporte de la satisfaction. Par exemple, Marie peut raisonner de la façon suivante. Si elle se prend à imaginer certains arômes, elle peut se dire « Ah, ce qui m'a attiré dans la cuisine dont j'ai fait l'expérience, c'est sans doute des combinaisons d'ingrédients ou des épices et pas des techniques de cuisson, par exemple. » Parce que ce qui saisit mon imagination, c'est vraiment des arômes. Eric peut aussi se prendre à reproduire certains rythmes et du coup se dire « Ah, c'est ça qui a attiré mon attention dans la musique de Mahler, c'est cet usage extraordinaire des rythmes. » Mais pour faire une bonne sélection, une bonne interprétation, une bonne abstraction de ces propriétés, en fait, il faut connaître plus de choses que ce que ces agents connaissent. Il faut connaître plus de choses sur le monde. En fait, il va falloir que ces agents dirigent leur regard vers le monde, acquièrent de l'information sur leur monde, qui leur permettent en fait de se poser et de répondre en partie à la question que pose Byrne de ce qui est désirable. La base inférentielle de Lawlor, juste ce qui me traverse l'esprit, ça donne des indices, mais ça ne suffira pas. Ce que je prétends donc, c'est que le sujet qui est confronté à l'opacité de ce désir acquis par l'expérience, il va devoir se poser la question de ce qui est désirable. Et il va devoir y répondre à l'aune de ce qui lui a donné satisfaction, à l'aune de l'expérience qu'il sait lui avoir donné satisfaction, peut-être aussi de ce qui traverse son esprit, comme le décrit Lawler, mais aussi de ce qu'il sait ou de ce qu'il peut apprendre, surtout de ce qu'il peut apprendre, puisqu'on parle d'agents peu familiers du domaine, de la distribution et de la similarité des propriétés des objets éventuels de son désir. En fait, il va devoir se poser la question de savoir, par exemple, si on est marié, quels sont les ingrédients qui sont utilisés ici, quelles sont les épices qui sont utilisées ici, quelles sont les techniques de cuisson, en quoi est-ce qu'elles sont similaires ou différentes des techniques qui sont utilisées dans d'autres traditions culinaires, en quoi est-ce qu'il y a des traditions culinaires qui les recombinent d'une manière qui pourrait peut-être m'apporter la satisfaction que je recherche. Le sujet, en faisant ça, immobilise ses croyances sur le monde et donc il tourne son regard vers le monde. En fait, ce que je viens de décrire, ça revient pour le sujet à repasser de manière lente et laborieuse sur le mécanisme automatique que décrivaient Richard Holton et Ken Berridge. En fait, ce mécanisme, il produit une approximation et puis ensuite, le sujet a tout le loisir d'essayer de réviser cette approximation de manière cette fois-ci plus rationnelle, en mobilisant plus d'informations, en acquérant de la nouvelle information parce qu'il en manque et en essayant de faire porter cette information sur l'objet qui pourrait satisfaire son désir, sur ce qui pourrait faire ce que pourrait être le profil de satisfaction de ce désir opaque. Ça, il me semble, en fait, c'est une forme de rationalité pratique qui n'est pas instrumentale, en fait, qui est une rationalité pratique qui cherche à élucider l'objet de mon propre désir en mobilisant des connaissances sur les similarités et les différences, sur l'espace des objets possibles pour ce désir. Néanmoins, je pense que ce modèle d'épistémologie du désir, là pour l'instant j'ai l'impression, enfin je donne l'impression de me ranger à la proposition de Byrne, mais en fait je ne peux pas aller jusqu'au bout, parce qu'il me semble qu'en fait ce processus lent et laborieux, dans le cas qui m'occupe, en fait il ne va pas se terminer par une connaissance de son propre désir, parce qu'il ne va pas produire des conclusions qui auront la certitude nécessaire pour que je puisse me dire « ça y est, maintenant je connais le profil de satisfaction de mon désir ». En fait, cette enquête, elle part d'une position d'incertitude et de manque de familiarité. Au départ, Eric est très, très, très incertain sur les contours exacts de ce qui pourrait satisfaire son désir. Et il aura beau accumuler beaucoup d'informations, je ne pense pas qu'il pourra résorber cette incertitude. Les conclusions de son enquête, de ce que je viens de décrire, en fait, ça ne sera pas des croyances, ça sera plutôt des hypothèses. Ça sera des hypothèses sur ce qui pourrait être désirable. Tiens, d'après ce que je sais de la tradition musicale, des propriétés de la musique de Mahler, de ce qui m'a plu dans la musique de Mahler, de ce qui me traverse l'esprit maintenant, il est possible, on peut faire l'hypothèse, qu'il serait désirable d'écouter la musique de Bruckner, que la musique de Bruckner pourrait répondre à mon désir d'écoute. Mais c'est juste une hypothèse. Et donc, en fait, cette hypothèse, elle va devoir donner lieu à des actes exploratoires, des actes qui vont tester la qualité de ces hypothèses, qui vont tester ces hypothèses pour voir si, effectivement, la musique de Bruckner est satisfaisante ou pas. C'est pour ça que maintenant, dans la dernière partie, je vais me tourner vers ces actes exploratoires et je vais essayer de les comprendre. Mais avant de faire ça, deux questions qu'on pourrait se poser sur tout ce que je viens de dire, qui tirent dans des directions un peu opposées. La première, c'est est-ce que je ne peux pas faire l'économie de tout ce que je viens de décrire dans cette partie sur l'épistémologie du désir? Est-ce qu'en fait, je ne peux pas sauter directement à la case exploration? Je fais une expérience plaisante, je produis un désir inadéquat, mais en fait, je peux continuer à faire des expériences. Je peux continuer à échantillonner mon environnement, je peux continuer à collectionner les expériences. Et puis, peu à peu, au gré de la sérendipité, je vais arriver à une conception plus précise de ce qui pourrait me satisfaire. Donc, en fait, je ferai cette exploration, mais je la ferai à l'aveugle, sans avoir fait cet effort de rationalité pratique que je viens de décrire. Alors, évidemment, c'est tout à fait possible. On peut tout à fait faire toutes les expériences possibles et imaginables et à la fin, savoir ce qui nous satisfera et ce qui ne nous satisfera pas. Néanmoins, il me semble que cette exploration à l'aveugle, qui ne serait pas du tout guidée par le raisonnement, en fait, elle aurait très très peu de chances d'arriver à élucider l'objet d'un désir opaque. Parce que si vraiment vous faites une recherche qui n'est guidée absolument par aucune croyance sur ce qui pourrait être désirable, vous tâtonnez complètement à l'aveugle et en fait, vous faites des expériences qui vont être complètement au hasard. Et ça a très peu de chances d'être des expériences qui vont dans une direction fructueuse. C'est même pire que de tâtonner, parce que quand on tâtonne, en fait, on utilise la structure de l'espace physique pour s'orienter dans le tâtonnement. Mais là, l'espace physique, il ne servira à rien. Si j'utilise la structure de l'espace physique, si je suis marié, ben, je vais retourner dans le même restaurant inlassablement, ou je vais aller dans le restaurant d'à côté, ou je vais aller fouiller les cuisines du restaurant, voire même les poubelles du restaurant, parce que je vais juste utiliser la proximité spatiale. C'est évident que ça ne marchera pas. Ce qu'il faut que j'utilise, c'est une certaine proximité culinaire. Donc, en fait, il faut que je mobilise certaines croyances pour diriger mon exploration. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce que je viens de décrire, même si, in fine, il faudra quand même explorer. Au contraire, est-ce qu'on ne peut pas peut-être faire l'économie de l'exploration en se disant que l'imagination pourrait suffire ? Une fois que j'ai émis des hypothèses sur le désirable, est-ce que je ne peux pas acquérir suffisamment d'informations sur le monde pour simplement pouvoir répondre, confirmer ou infirmer mon hypothèse simplement par imagination, en imaginant certaines actions. Alors c'est quelque chose que Lawler évoque, là encore une fois, à juste titre. Je pense qu'il y a beaucoup de cas où l'imagination va jouer un grand rôle. Je pense que c'est une bonne réponse au cas de substitution que j'ai mentionné, dans certains cas en tout cas. Si j'avais un désir de bière, ce désir est frustré. Par l'imagination, en fait, je peux sans doute voir ce qui pourrait satisfaire ce désir ou non. S'ils essayent un petit peu d'imaginer des expériences, je vois si le désir pourrait y répondre ou non. Je pense que ça pourrait marcher. Mais je ne pense pas que ça marchera dans les cas qui m'occupent. Je ne pense pas qu'un agent comme Eric puisse accumuler suffisamment d'informations sur la musique de Bruckner pour être capable, en fait, de s'imaginer la musique de Bruckner avec suffisamment de détails pour pouvoir répondre à la question, de manière catégorique, à la question « oui, maintenant je le sais, ça me satisfera ». Je pense que là, on rencontre les limites de l'inférence et de l'information qui peut être acquise sur le monde sans l'explorer, en fait, sans en faire l'expérience. Et c'est donc ce qui m'amène à cette dernière partie, l'exploration, qui va être un peu plus succincte que les précédentes, parce qu'en fait, je vais essayer de proposer assez rapidement différents modèles de la manière dont cette exploration pourrait être motivée. Ça va être un peu ma dernière innovation théorique. Je vais proposer des réponses à la question de savoir comment je peux motiver cette exploration, sachant qu'il semble en fait au départ y avoir une sorte d'asymétrie entre une hypothèse incertaine et des sources de satisfaction connues. Si je sais que retourner dans ce restaurant m'apportera de la satisfaction, et si je fais l'hypothèse qu'un autre restaurant pourrait m'apporter de la satisfaction, ben est-ce que je n'ai pas intérêt à aller dans le premier restaurant simplement parce que c'est une chose certaine en fait ? Pourquoi est-ce que j'irais chercher des sources hypothétiques de satisfaction alors que je connais des sources certaines de satisfaction ? Évidemment, on connaît tous la réponse à ça, c'est la lassitude. Je vais me lasser de ce restaurant, je veux savoir plus de choses. Peut-être même que le restaurant d'à côté, il est encore meilleur. Que l'autre restaurant dont je pourrais faire l'expérience, il répondrait encore mieux à mon désir. En fait, ce qu'on veut décrire, c'est la manière dont l'agent équilibre exploration des sources de satisfaction possibles et exploitation des sources de satisfaction connues. Alors cet équilibre exploration-exploitation, c'est quelque chose qui est très connu dans la littérature en théorie de l'action ou en écologie comportementale. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est l'exploration du profil de satisfaction d'un désir en particulier. Ce n'est pas l'exploration de l'environnement, c'est l'exploration de l'environnement au service de la connaissance de mon désir. Alors on pourrait imaginer trois modèles cette exploration pourrait être motivée. Et je pense que les trois, en fait, sont adéquats. C'est-à-dire, je pense que les trois sont instanciés. Je pense qu'il arrive dans la vie humaine qu'on soit motivé de ces trois manières différentes. Mais je vais néanmoins soutenir qu'il y en a une qui est plus importante que les autres, qu'elle prend une part plus importante à notre expérience et à notre motivation. Et elle demande, en fait, une nouvelle révision de la manière dont on comprend le désir. Alors, la première manière, je pense que c'est la manière la plus intuitive, et en tout cas la manière dont les philosophes vont le plus immédiatement répondre à cette question, c'est de suggérer qu'il y a un autre désir ou une autre source de motivation qui va motiver l'exploration. Je peux être poussé à explorer, pas par le désir opaque que j'ai formé, mais par un désir autre qui va en fait venir en concurrence avec ce désir opaque qui motive certaines actions. Et ce désir autre, il va être capable de motiver d'autres actions, des actions plus exploratoires. Alors très souvent dans ce contexte, les philosophes invoquent un désir de second ordre. Par exemple, le désir de satisfaire ses propres désirs. C'est ce que font beaucoup les auteurs huméens contemporains pour répondre à certains problèmes. Par exemple, Nils Sinababou, quand il se pose la question de savoir comment je peux maintenant commencer à agir pour satisfaire un désir que je ne ressens pas encore, mais que je prédis ressentir dans le futur, bah, il fait appel à ce désir de satisfaire mes propres désirs. Pour l'instant, je ne désire pas du tout aller prendre un verre avec mes collègues ce soir. Mais je peux me dire que ce soir, je désirerais prendre un verre avec mes collègues. Et donc maintenant, je peux faire certaines actions qui vont faciliter cet état de fait ce soir. Je peux envoyer un message à un collègue pour lui proposer de prendre un verre. Pas sur la base d'un désir que je ressens maintenant, mais sur la base de ce désir de satisfaire mes propres désirs et de cette prédiction que ce soir je ressentirai ce désir. Néanmoins, ce type de solution, il va se heurter au même obstacle que j'ai déjà décrit, c'est l'incertitude de l'hypothèse. Là, j'ai affaire à une hypothèse très incertaine sur ce qui pourrait satisfaire mon désir. Et donc même le désir de satisfaire mes propres désirs, il ne va pas forcément m'incliner à choisir cette hypothèse incertaine. Il va m'incliner à choisir des sources connues de satisfaction. Du coup, je pense que si on veut vraiment faire fonctionner ce modèle, il faut postuler une autre motivation d'ordre franchement épistémique. En fait, ce qu'il faut mettre en concurrence avec le désir opaque, c'est un désir d'explorer, un désir, la curiosité vis-à-vis de ses propres désirs. C'est un désir franchement épistémique. Je pense que parfois on est motivé par un désir de ce type, parfois on est motivé par une curiosité par rapport à son propre désir. On se dit, tiens, qu'est-ce qui me paraît désirable là-dedans? C'est par exemple ce qui peut motiver l'interrogation « Pourquoi est-ce que j'aime l'art de la fugue et pas les variations Goldberg ?» Je crois que c'est une interrogation qui est motivée par ce type de curiosité. Mais je pense que dans les cas qui m'intéressent, assez souvent, c'est pas comme ça qu'on rendra le mieux compte de l'expérience de l'agent qui explore son environnement. Il me semble qu'il y a présent à son esprit ce désir opaque et ce désir de satisfaction, en fait. Quand il explore, il est vraiment en recherche de la satisfaction qu'il a ressentie. Et Eric, il veut vraiment cette satisfaction qu'il a ressentie en écoutant Malheur. S'il écoute Bruckner, ça va satisfaire sa curiosité, mais peut-être que ça ne va pas le satisfaire, en fait, parce que ce qu'il voulait satisfaire, c'est son désir d'écoute. Alors, on pourrait ajouter à la curiosité un espoir de satisfaction. Ça ne serait pas incongru. Eric pourrait à la fois être motivé par la curiosité et puis espérer que cette curiosité va être satisfaite d'une manière qui est plaisante. Mais cet espoir de satisfaction, il ne prendrait pas part à la motivation de l'agent. Et ça, il me semble que ce n'est pas correct non plus dans beaucoup de cas. Il me semble qu'en beaucoup de cas, ce qui pousse Eric à explorer, c'est peut-être en partie une certaine curiosité, mais c'est en partie un désir de satisfaction. Il est vraiment en recherche de satisfaction. Si on prend les choses complètement à l'inverse, si on se focalise entièrement sur ce désir opaque, on peut proposer un deuxième modèle. Un modèle selon lequel la motivation de l'agent, cette fois-ci, elle n'est pas du tout épistémique, elle est franchement hédonique. Ce qu'il recherche l'agent, c'est la satisfaction. Mais en fait, il a réussi à s'auto-persuader que son hypothèse était plus certaine qu'elle ne l'est. Il fait comme si son hypothèse était certaine alors qu'elle ne l'est pas. Il fait un peu semblant qu'il a une bonne hypothèse instrumentale. Donc Eric ferait semblant qu'en fait, il a un haut degré de confiance dans l'idée que la musique de Bruckner va le satisfaire. Et puis, il ignorerait ses doutes, en fait. Il les mettrait de côté. Alors, cette proposition, à mon avis, elle rend vraiment justice au rôle des espoirs de satisfaction dans la motivation de l'agent. Mais en fait, elle repose sur quelque chose qui me semble assez implausible, cette idée qu'on est capable de faire semblant d'avoir une certitude là où on n'en a pas, alors même que cette hypothèse, on l'a acquise dans un contexte assez incertain. Eric, il était très incertain. Il a commencé à se dire, mais qu'est-ce qui pourrait me satisfaire? Il a commencé à essayer d'acquérir de l'information. Il arrive à une position d'incertitude et puis finalement, il serait capable de s'auto-persuader qu'en fait, la position est moins incertaine que celle qu'elle ne l'est en réalité. Ça ne me paraît pas très plausible, surtout chez un agent qui est peu familier du domaine. Donc, il va forcément avoir des doutes sur sa propre compétence. Et puis, cette motivation, évidemment, elle ne donne aucune dimension exploratoire à l'action. Il n'y aura aucune dimension, du coup, épistémique à la motivation d'Eric dans cet exemple. Enfin, dans cette manière de motiver son exploration. Alors, ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça inciterait en fait à essayer de produire quelque chose de mixte, à essayer de marier les deux modèles ensemble. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les prendre et les ajouter ensemble, parce qu'en fait, ils tirent dans des directions opposées. La curiosité est motivée par l'absence d'information, la curiosité est motivée par l'incertitude. C'est parce que je ne sais pas que je suis curieux. Au contraire, là, j'ai quelque chose où je me suis persuadé qu'en fait, j'avais plus de certitude que je n'en ai. Donc, on ne peut pas prendre les deux modèles et juste les additionner, en fait. On ne peut pas avoir un agent qui soit motivé des deux manières en même temps, parce qu'on aurait un agent qui serait à la fois obligé de penser qu'il est incertain et de penser qu'il est plus certain qu'il ne l'est. Donc, je pense que ça ne marchera pas de simplement juste coller ensemble les deux. Néanmoins, je pense qu'il faut se tourner dans la direction d'un modèle mixte, et donc je vais faire une proposition plus audacieuse. D'essayer de tenir ensemble ces deux sources de motivation, ces deux types de motivation, en supposant en fait que le désir opaque lui-même, il est capable de motiver des actes exploratoires, parce qu'on va ajouter à notre théorie de ce désir, en fait, un certain paramètre qui régulera l'exploitation et l'exploration. En fait, chaque désir, selon cette idée, serait capable de motiver des actes d'exploitation des sources de satisfaction connues, c'est-à-dire les actes qui en fait sont les actes motivés par son profil de motivation. Mais dans certains cas, ce désir serait aussi capable de motiver des actes plus exploratoires. Ce désir serait capable, en fait, d'utiliser des hypothèses instrumentales sur sa propre satisfaction et de motiver la recherche ou la recherche d'informations sur ses sources de satisfaction. Parce que, en fait, ce désir, il serait capable d'une certaine auto-évaluation de la qualité de l'adéquation entre ces deux profils. Cette auto-évaluation, on pourrait la qualifier de métacognitive en un sens assez faible, c'est-à-dire que le désir, en fait, il contiendrait un indice de la propre certitude sur cette petite structure instrumentale qu'il contient. L'idée, c'est que quand le mécanisme que Holton et Berich décrivent produit un nouveau désir, eh bien, il produirait aussi un désir avec une certaine certitude ou non pour l'objet que motive ce désir. Ce désir, je le produis, et puis soit je le produis avec une certaine certitude, je suis familier du domaine, je crois que j'ai vraiment identifié ce qui est plaisant dans cette expérience, et donc j'ai un haut degré de certitude associé à ce désir sur le fait que ce désir motive vraiment les actions qui lui procurent la satisfaction. Et puis au contraire, dans certains cas, je produis un désir, mais je ne suis pas vraiment sûr. C'est un désir un peu incertain, parce qu'il motive certaines actions, qui sont des sources de satisfaction connues, mais son profil de satisfaction est en fait hautement incertain pour moi, hautement opaque, et donc en fait, ce désir est associé à une certaine incertitude, une certaine propension du coup à motiver l'exploration. Et puis ce paramètre, exploitation-exploration, il serait évidemment aussi influencé par la lassitude que je peux ressentir pour les objets connus. Une fois que j'ai fait l'expérience de la musique de Mahler, enfin qu'Eric a fait l'expérience de la musique de Mahler de manière répétée, il va se lasser de cette source de satisfaction. Ce que je propose, c'est qu'en se lassant de cette source de satisfaction, il ne se lasse pas forcément de son désir. En fait, il a toujours le même désir d'écouter cette musique, c'est juste que ce désir se réoriente. Il n'a rien pour se réorienter de manière claire, mais ce désir est aussi associé à cette espèce d'incertitude sur ce qui pourrait le satisfaire, et donc à ce moment-là, une fois qu'Eric ressent de la lassitude, ce désir va être capable de motiver des actes exploratoires, des actes qui sont dirigés vers des sources de satisfaction plus incertaines, mais nouvelles. Alors, évidemment, une alternative ici, ça serait de postuler un paramètre plus global, et en fait, c'est ce que font la plupart des auteurs qui parlent de l'équilibre entre exploitation et exploration. En fait, très souvent, cet équilibre, chez la plupart des auteurs, par exemple, c'est l'usage qu'en font Michael Hinzlich et ses co-auteurs pour parler de certains phénomènes dans la théorie du contrôle de soi. En général, on postule un paramètre global. C'est le sujet dans son ensemble qui est là de certaines choses, qui est là de l'exploitation et qui se tourne vers l'exploration. Mais il me semble que dans le cas qui m'intéresse, en fait, il va être préférable aussi, peut-être en ajoutant, je ne dis pas forcément que ces autres auteurs ont tort, en fait, on peut très bien avoir une lassitude globale et une lassitude locale, mais je pense qu'on va devoir ajouter cette lassitude locale et aussi faire dépendre l'équilibre entre exploration et exploitation de cette auto-évaluation du désir. Il y a des désirs où je sais ce que je veux, et donc je ne vais pas avoir tendance à explorer. Même si je suis là de l'objet, ce qui va se passer, c'est que je vais me lasser de mon désir. Si je suis là de boire de la bière, et je sais que je veux vraiment de la bière, c'est mon désir qui va s'éteindre. Je ne vais pas soudain essayer de le réorienter vers autre chose qui pourrait lui procurer une source de satisfaction d'une nature nouvelle. Donc il me semble que ça nécessite comprendre ce qui anime vraiment ces agents qui essayent d'élucider leur propre désir par des axes exploratoires. Ça nécessite de comprendre leur désir comme étant capable de cette auto-évaluation et capable d'une certaine forme de lassitude pour leur profil de motivation sans que ça s'accompagne d'une lassitude pour leur profil de satisfaction. Et donc ça implique encore une fois de réviser une dernière fois notre théorie du désir. Alors je vais arrêter là mes innovations. Juste pour récapituler brièvement ce que je vous ai proposé aujourd'hui, je me suis appuyé sur ce phénomène des désirs acquis par expérience, qui ne semble pas avoir été assez étudié, pour en fait soutenir une thèse sur l'opacité de certains désirs et sur les problèmes épistémologiques et pratiques que soulève cette opacité. En fait, implicitement, j'ai fait l'hypothèse qu'on était capable de surmonter ces problèmes. Une autre réaction à la première partie de ma présentation, ça serait de dire, les êtres humains ont une motivation hautement imparfaite et c'est la source en fait d'une sous-optimalité rampante dans leur action. En fait, j'ai implicitement fait l'hypothèse que non, j'ai fait l'hypothèse qu'on était capable, quand on était dans la situation d'Eric, de faire des progrès sur l'élucidation de nos désirs. Et puis j'ai utilisé cette description du phénomène pour proposer en fait trois révisions de notre conception de la motivation humaine. Une première qui postule, qui prend au sérieux de multiples phases du désir qui peuvent être mal coordonnées entre elles. Une deuxième qui s'appuie sur les travaux sur l'épistémologie inférentielle et transparente du désir, mais qui souligne en fait leur caractère incomplet pour des agents peu familiers du domaine. Et puis enfin, pour compléter cette épistémologie, j'ai proposé une certaine manière dont le désir peut motiver des actes exploratoires à l'aune de sa propre auto-évaluation et de la lassitude qu'on peut prendre à ces objets premiers, ces objets dont il motive la quête. Alors je vous ai aussi donné d'autres exemples de désirs opaques, et ces désirs opaques, je ne les traiterai pas de la même manière, si j'avais à en parler. Donc je ne prétends pas que ce que j'ai dit ici, ça s'applique par exemple à ces cas de substitution. J'ai indiqué un petit peu que je pense que dans les cas de substitution, on peut se satisfaire d'une épistémologie du désir beaucoup plus proche de celle de Krista Lawlor, par exemple. Je pense qu'on pourra faire l'économie des actes exploratoires. Donc j'ai proposé d'autres exemples qui inviteront peut-être d'autres directions d'exploration. Aujourd'hui, je me suis intéressé à ces désirs acquis par l'expérience, et j'espère que je vous ai convaincu un petit peu qu'il présentait un problème dont il fallait répondre d'une manière très, auquel il fallait répondre d'une manière très particulière. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci Philippe, tu nous as laissé du temps pour la discussion, c'est parfait.
Merci beaucoup pour cet exposé tout à fait passionnant. Alors j'avais une question qui était, est-ce que pour toi, il n'y a pas un phénomène assez semblable au niveau des concepts, tout simplement, puisqu'il y a quelque chose qui, à mes yeux, ressemble un peu, qui est l'idée qu'on désigne parfois sous le terme de texture ouverte des concepts. Donc l'idée que... Prenons par exemple les concepts acquis sur la base de l'expérience, puisque ça semble le cas le plus parallèle. Peut-être que le contexte d'acquisition du concept, peut-être aussi tous nos usages passés, ne va pas déterminer de manière déterminée quoi il va pouvoir s'appliquer dans le futur, dans des sortes de cas limites. Donc, c'est une manière possible de comprendre la notion de texture ouverte. Et une hypothèse là-dessus que je voudrais te soumettre, savoir ce que tu en penses, c'est que peut-être que ça suggère qu'il y a au sein des concepts eux-mêmes une structure motivationnelle en partie cachée, puisqu'une idée que j'aime bien pour ma part sur les concepts, c'est qu'ils sont en partie individués par des buts épistémiques. Donc si on pense qu'un concept, ce qui fait que c'est tel ou tel concept, c'est en partie qu'il sert une certaine fin, par exemple, on s'en sert pour... connaître tel ou tel domaine, et peut-être que nos buts épistémiques sont opaques d'une certaine manière et que ça donne une forme d'opacité des concepts eux-mêmes qui ressemblent à celles que tu postules pour les désirs. Bon, ça fait beaucoup de choses pour la même question, mais la question générale, c'est quel rapport il y aurait entre ce type d'opacité pour les désirs et des phénomènes qui, à première vue, peuvent sembler parallèles dans le cas des concepts.
Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on peut voir, on peut faire un rapport assez étroit, en fait, je pense. Mais tu as parlé de but épistémique. En fait, moi, j'ajouterais en fait que là, en fait, l'agent qui est confronté à l'opacité de son désir, il cherche à construire un concept avec un but pratique, en fait. Le but de répondre à la de satisfaire son désir. Donc, en fait, je pense qu'on pourrait prendre le problème par le bout inverse et se dire que cette opacité, on pourrait la comprendre comme la création d'un concept avec une texture ouverte et une finalité pratique. Ça, tout à fait. Du coup, ça voudrait dire qu'il y a d'autres concepts qui ont une finalité épistémique et que c'est séparé. Et je pense qu'en fait, dans ces cas d'agents peu familiers, il va y avoir plusieurs concepts de ce type qui vont être instanciés au même moment, en fait. C'est-à-dire qu'une partie du travail exploratoire qu'Eric va faire, il va être dirigé vers l'acquisition d'informations sur la musique classique. Et donc, il y aura des visées épistémiques à un certain nombre des concepts qu'il va pouvoir créer dans ce moment-là ou commencer à créer. Et puis, il y en aura au moins un en particulier qui va être à visée pratique, qui est ce que j'aime, quoi, ce qui me satisfait. Je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question, mais en tout cas, je pense que je suis en désaccord avec rien de ce que tu as dit.
Merci beaucoup. Vous mentionnez souvent les agents peu familiers du domaine.
Oui.
Est-ce que vous pouvez... Enfin, je ne vois pas exactement ce que ça veut dire. Et est-ce qu'ils sont toujours confrontés dès lors qu'on devient familier du domaine, est-ce qu'on est toujours confronté à l'opacité de son désir?
Alors, j'ai parlé en particulier des agents peu familiers parce qu'il me semble que le problème, du coup, il est particulièrement saillant pour eux. Parce que, du coup, c'est assez évident qu'ils pourront pas, sur le vif, former un objet précis et exact pour leur désir. Ça veut pas dire qu'en devenant familier, ils percent nécessairement l'opacité de leur désir. En fait, comme j'ai présenté le mécanisme comme encapsulé, en fait, je pense qu'on peut être familier du domaine et néanmoins être confronté à cette opacité peut-être à un degré moindre quand même, parce que malgré tout, on aura des concepts disponibles qui nous permettront un petit peu mieux de cerner ça. Alors, si on veut prendre un exemple, on pourrait se dire que on pourrait imaginer Eric, une version différente d'Eric, qui en fait connaît pas du tout la musique classique, il a jamais entendu la musique classique, mais en fait c'est un musicien chevronné en fait, il joue beaucoup de musique, il connaît très bien la musique, et donc il a beaucoup de concepts pour décrire la musique, des concepts de rythme, de tonalité, de sonorité, de, enfin plein de concepts. Il sera déjà dans une position un tout petit peu meilleure pour formuler une hypothèse sur une hypothèse un peu plus qualitative sur ce qui peut le satisfaire. Donc peut-être que sa première passe, ça va pas être juste cette musique. Néanmoins, bon, il sera toujours d'un certain autre côté peu familier du domaine parce qu'il n'aura pas de connaissance de la tradition dans laquelle s'inscrit la musique classique. Et ça, c'est une dimension importante de la manière dont on s'oriente dans la musique. On cherche les propriétés musicales, mais aussi simplement des propriétés généalogiques entre différents compositeurs. Donc c'est ça que je voulais dire par des agents peu familiers du domaine. C'est des agents qui, en fait, c'est assez évident qu'ils ne disposent pas de l'information qui leur permettrait de cerner leur source de satisfaction. Mais je ne veux pas dire qu'un agent qui dispose de cette information va forcément être capable de la mobiliser. Donc je pense qu'un agent familier peut néanmoins se retrouver dans une situation au moins partiellement similaire. Peut-être que l'obstacle épistrémique sera moins élevé pour lui.
Merci pour votre présentation. J'aurais aimé revenir sur la contradiction que vous abordiez à propos du fonctionnement expérimental, sur est-il possible, par exemple, de fonctionner simplement expérimentalement, en se disant je vais un peu tout tester.
Oui, juste par essai-erreur.
Donc dans la première question des quelques questions que vous posiez. Au fond, est-ce que cette représentation expérimentale, c'est pas celle qu'on pourrait avoir d'un sujet qui fonctionnerait avec un système de recommandations? Au fond, on pourrait avoir Eric qui rencontre la musique de Mahler, mais cette fois-ci avec un algorithme de recommandations, comme aujourd'hui ils sont très communs, qui n'a pas à mobiliser une quelconque démarche épistémique ou même une rationalité pratique, et qui, en fait, donne un signal de plaisir stimulé par ça, et ensuite fonctionne justement avec des espèces de comparaison de son profil de satisfaction qui serait comparé à d'autres profils de satisfaction et où au fond on fonctionnerait d'un point de vue presque inductif, c'est-à-dire bon voilà, quelqu'un qui a aimé ça pour la première fois aimera probablement aussi une autre forme de musique classique. Et dans ce cas-là, au fond, quel est le problème? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas justement tout un ensemble de sujets qui fonctionnent bien plus expérimentalement du fait de différents types d'outils qu'on peut utiliser pour explorer le désir et qui sont des outils, dans ce cas-là, de synthèse de d'autres expériences qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite et donc de ne pas être justement dans la description que vous faisiez sur ce point-là spécifiquement, qui était justement l'idée d'être même pas un aveugle qui peut à peu près se repérer dans l'espace, mais quelque chose d'encore plus difficile à voir vu qu'on est dans l'espace conceptuel. Voilà, merci.
Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, j'ai pas mentionné les algorithmes de recommandation qui sont évidemment une des manières dont on fait cette exploration. Alors, il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. Effectivement, la recommandation, pas seulement les algorithmes, mais aussi les recommandations que va faire Blair dans l'exemple, là. Évidemment, c'est une source importante d'acquisition de l'information sur ce qui pourrait être les propriétés du domaine. En fait, je l'ai traité comme étant une sous-espèce de cette forme de rationalité pratique, dans la mesure où écouter ces recommandations et les suivre, ça revient en fait à accepter une certaine structuration du domaine qui est proposée par ces recommandations. Alors pour les algorithmes, en fait, ce que l'algorithme propose, c'est un substitut de la structuration spatiale, en fait. J'ai l'algorithme qui me propose en fait des similarités entre les profils de satisfaction d'autres gens qui ont écouté de la musique classique et qui donc en fait entend se substituer au tâtonnement. Il me dit tâtonne mais dans cette direction. En fait, pour que j'aille dans cette direction, il faut déjà que je pense un certain nombre de croyances instrumentales, et pas seulement instrumentales d'ailleurs, sur la qualité de ces recommandations, en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent, par exemple, que l'algorithme de Spotify, il est très bon, mais l'algorithme de Yelp, il est nul parce qu'il ne marche pas bien. Et donc, en fait, on aura tendance à faire confiance à un algorithme ou non, en fonction de certaines croyances qu'on a déjà sur le domaine et sur la manière dont cet algorithme, en fait, a réussi à identifier certaines propriétés pertinentes du domaine. Néanmoins, c'est un raccourci évident qui nous permet en partie de sauter par-dessus une partie de l'épistémologie du désir. Néanmoins, il me semble pertinent de se dire aussi que dans tous les cas de recommandation, en fait, c'est quand même souvent pertinent pour la personne qui fait une recommandation de d'abord nous demander ben, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ou qu'est-ce que tu recherchais exactement. Si je viens juste à la bibliothèque et que je dis « je veux ce titre » et que le ou la bibliothécaire me dit tout de suite « ah ben on l'a plu, mais prenez ça », je ne pense pas qu'il ou elle ait fait le meilleur travail qu'on puisse faire en fait. Il faudrait plutôt d'abord se demander pourquoi je voulais ce livre. Est-ce que c'est pour l'auteur? Est-ce que c'est pour le sujet? Est-ce que c'est au programme de la Greg?
Merci. J'ai une question sur l'interaction entre ce qui est raisonnable et pas quand on a des désirs et l'idée des désirs opaques qui deviennent de plus en plus précises lorsqu'on s'engage dans une exploration rationnelle. Donc, par exemple, si Marie, elle a un désir pour un certain type de nourriture et qu'elle va dans des restaurants mais qu'elle n'aime pas du tout la couleur rouge, donc quand elle voit de la nourriture qui est rouge mais qui normalement devrait, si elle était rationnelle, satisfaire son désir, qu'est-ce que ça veut dire pour le désir opaque? Est-ce que le désir opaque, son objet vrai, enfin son objet réel, est-ce que l'objet il est inclusif de la nourriture rouge qu'elle ne veut pas manger parce qu'elle n'est pas très rationnelle, ou est-ce qu'il y a des limites qui sont imposées par le fait qu'elle n'est pas très raisonnable qui limite l'objet de son désir? Je ne sais pas si je me suis...
Non, c'est une très bonne question. Effectivement, en fait, ça joue sur en fait, le fait que je n'ai pas élucidé la différence entre le fait pour l'agent de se satisfaire de quelque chose et le fait pour le désir de se satisfaire. En fait, je parle de profil de satisfaction du désir, donc je veux vraiment me concentrer sur le désir. Donc en fait, je veux faire l'hypothèse que le désir lui-même se satisferait de certaines expériences, et puis après, il peut y avoir des parasites. Il peut y avoir d'autres attitudes mentales qui font qu'en fait, cette expérience sera moins satisfaisante qu'elle ne devrait l'être au regard de ce désir. En fait, il me semble qu'une partie du travail d'élucidation du désir, c'est aussi d'essayer de surmonter ce genre de... Alors, vous l'avez décrit comme des irrationalités, et j'ai tendance à aller dans votre sens aussi, ce qui sont en fait des irrationalités à l'intérieur des combinaisons de nos désirs. En fait, une partie de ce travail, j'ai pas du tout insisté sur ce point, mais il me semble qu'en fait, une partie de ce travail d'élucidation du désir, ça va aussi permettre de donner une certaine cohérence pratique à notre action, et donc de pas agir à contre-courant de notre propre motivation, dans des cas où, par exemple, on fait des distinctions arbitraires. Je ne sais pas si... Enfin, c'est une manière d'endosser ce que vous avez dit sans vraiment y répondre, mais la visée de mon propos, c'était vraiment de parler d'un profil de satisfaction de ce désir en particulier. Qu'est-ce qui le satisferait, lui? Et je pense qu'évidemment, du coup, pour le sujet, il peut y avoir des parasites. Le sujet peut très bien ne pas prendre plaisir à une expérience qui, en fait, satisfait son désir parce qu'il y a d'autres choses qui se passent en même temps dans son esprit. Merci.
Merci. Il semble qu'il y ait des désirs donc génériques et plus spécifiques dans le même domaine. Donc, tu en as dit un mot avec la cuisine et l'exploration des plats, etc. Mais je voulais te demander si, donc, si on admet que, imaginons que je vienne chez toi et tu me dis, est-ce que tu veux boire quelque chose? Et en fait, une façon d'explorer pour moi, ça peut aussi être d'imaginer, tiens, en fait, je ne sais pas, est-ce que j'ai vraiment envie de boire quelque chose, est-ce que... Donc, une forme d'exploration, ça pourrait être une forme d'exploration cognitive. Le niveau générique pourrait être opaque, et pour savoir si j'ai envie de boire quelque chose, j'imagine. Et je te demande, qu'est-ce que tu as à proposer, si tu me dis, ah, du vin, de la bière, une bière belge, française, chinoise, etc. Et à la fin, je dis, non, en fait, finalement, non. Et donc... J'ai pas envie de boire quelque chose. Donc, est-ce que une thèse d'opacité peut s'appliquer à un niveau, disons, générique et ou spécifique, et en fait pas à l'autre? Enfin, en fait, en gros, est-ce que au niveau générique, peut-être, ça peut être opaque, et puis une exploration cognitive nous permettrait, elle, par une transparence à un autre niveau, de savoir ce qu'on voulait au niveau générique. Est-ce que tu penses que c'est possible, ça? Est-ce qu'il y a de l'exploration cognitive, ou bien est-ce que c'est seulement dans le monde?
Alors, en principe, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Après, l'exemple que tu as donné, en fait, c'est un exemple qui est très important dans la littérature d'épistémologie du désir, et je n'ai pas fait cette distinction, mais il y a une grande partie de la littérature qui, en fait, s'intéresse à
est-ce que je peux savoir si je veux cet objet très précis, en fait ? Et ça, c'est une question en si. Et moi, la question qui m'a intéressé, c'est une question en quoi. C'est, je sais que je veux quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Donc en fait, ce n'est pas tout à fait le même type d'exemple et je ne suis pas sûr que je le traiterai de la même manière. Néanmoins, dans cette idée qu'il puisse y avoir un désir générique plus opaque et des désirs spécifiques plus précis, oui, forcément. Alors c'est ce qu'on a dans le modèle à deux désirs. Là, on a un désir en fait intrinsèque, générique, et puis un désir instrumental, précis, transparent, plus spécifique. Mais on pourrait avoir ça aussi dans la structure que j'ai proposée. C'est-à-dire que Marie a ce désir qui est opaque, qui se satisferait d'une certaine type de nourriture. Ça motive en fait le fait d'aller dans n'importe quel restaurant dans la rue où elle connaît les restaurants sichuanais. Et puis ensuite, elle a un désir spécifique, plus précis, d'aller dans celui-là aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps qu'elle n'y est pas allée, etc. Ou parce que c'est le seul qu'elle n'a pas essayé. Il se présente de la même manière, donc il motive son... En fait, on pourrait imaginer des cas, effectivement, où on aurait cette séparation entre un désir plus générique, opaque, et un désir plus précis, qui, lui, en fait, est transparent, plus spécifique. Tout à fait. Ça joue forcément un rôle dans l'exploration. Je pense que ça joue un rôle, notamment dans l'exploration, qui est franchement épistémique. Si je suis motivé par la curiosité, ça va me motiver à former ce type de désir instrumental dirigé vers un objet précis. Mais en fait, j'ai l'impression de ne pas répondre à ta question, en fait. Parce que, en fait, j'ai un peu suggéré dès le début que je ne pourrais pas y répondre parce que ça porte quand même très, très précisément ton exemple, il porte sur un cas que je n'ai pas abordé. Celui où, en fait, l'objet est très clair, boire quelque chose ou ne pas boire quelque chose. Mais en fait, ce qui est incertain, c'est de savoir si je désire cet objet très clair ou pas. Ça, c'est un autre problème épistémique, du coup.
Merci pour votre présentation. J'ai une question qui serait peut-être un peu en dehors du contexte, mais c'est le désir comme rapport social. Si on plonge l'agent dans une dimension sociale, est-ce qu'il y a un désir mimétique qui apparaît ou est-ce qu'il y a des choses à ce sujet qui existent ?
Alors, le profil de satisfaction peut complètement être influencé par des tas de dimensions sociales. J'ai donné très brièvement cet exemple du bien matériel où en fait ce qu'on désire réellement, ce qui nous donnerait vraiment satisfaction, c'est le statut social que nous conférerait ce bien matériel. Il me semble que ça peut être un cas d'opacité très fort. On peut très bien s'imaginer par exemple que si on se pose la question dans les termes de Lawlor, en fait tout ce qui nous passe par l'esprit c'est vraiment ce bien matériel. C'est vraiment la douceur de la laine, de ce pull. Mais en fait vraiment ce qui nous apportera satisfaction c'est le regard des autres sur ce pull. Donc en fait, oui, et c'est à mon avis une source d'opacité, dans la mesure où ces influences qui peuvent exister sur notre profil de satisfaction, elles sont plus difficiles à percer, même si en fait je pense que les agents sont en général plus sociologiquement astucieux que les sociologues ne le pensent. Mais oui, tout à fait en fait, on peut tout à fait incorporer ça à cette idée. Et on peut aussi incorporer l'autre idée que le profil de motivation sera manipulé par des considérations sociales. En fait, il est manipulé implicitement par la manière dont les gens qui m'accompagnent m'ont présenté l'expérience que je fais s'ils étaient avec moi. Tout de suite, Blair, elle dit, c'est la sixième de malheur. Tout de suite, ça va manipuler la manière dont le nouveau désir chez Eric va être conçu. Et puis on m'a dit, tiens, c'est un restaurant sichuanais. On m'a pas dit, c'est un restaurant chinois. Donc tout de suite, ça change la manière dont je vais pouvoir créer un nouveau désir et il pourrait y avoir des influences sociales plus subtiles, c'est-à-dire que je pourrais avoir une tendance à mimer le désir de mes compagnons, si mes compagnons expriment un désir pour la cuisine sichuanaise en particulier, ça pourrait biaiser le profil de motivation de mon désir en direction de la cuisine sichuanaise, oui complètement.
Merci. À un moment de ton exposé, tu as exclu la position selon laquelle il y aurait en fait deux désirs distincts. Oui. Un dont l'objet est transparent et l'autre dont l'objet est opaque, le premier correspondant au profil de motivation et le second au profil de satisfaction. Et tu disais que le lien était trop étroit pour qu'on puisse diviser les choses comme ça. Je ne savais pas exactement quoi en penser, mais ça m'a fait penser au domaine des intentions elles-mêmes, où en fait il est assez courant de voir les intentions comme des plans structurés qui contiennent en fait plusieurs constituants qui sont eux-mêmes des intentions. Donc par exemple, j'ai l'intention d'acheter des billets d'avion parce que j'ai l'intention de partir en vacances. Donc là, on a des intentions distinctes qui sont prises dans une structure qui forme un plan, et on a ce rapport, on va dire, explicatif entre les constituants. Et je me disais, je me demandais si c'était pas un peu parallèle dans le cas du désir. Donc Marie désire retourner dans tel restaurant parce qu'elle désire. Et bon, là, l'objet du désir est opaque. Donc est-ce que ce parallélisme suggérerait pas que c'est plausible d'adopter cette conception que tu as rejetée, mais j'imagine qu'il y a d'autres.
En fait, évidemment, ce parallélisme, c'est vraiment ce que je veux rejeter, en fait. Je veux rejeter cette idée qu'il y a, dans les désirs, une structure instrumentale qui est très familière et qui est celle qu'on trouve dans les plans avec les intentions. Je la rejette pas dans le sens où je dirais c'est absolument impossible de faire fonctionner de manière cohérente ce type de théorie. En fait, on peut parfaitement soutenir qu'il y a deux désirs. Hein, la manière de découper le monde est quand même en partie arbitraire. C'est juste que ça me paraît pas fructueux du tout, en fait, de faire les choses de cette manière-là, parce que précisément, on n'a pas la structure modulaire qu'il y a dans les plans. En fait, dans un plan, on fait ce type de distinction parce qu'on peut assez facilement identifier les différents blocs et on peut assez facilement voir comment l'agent réagira à certains obstacles. Par exemple, si j'ai deux intentions, une pour une fin, une pour un moyen, que le moyen s'avère être inaccessible, eh ben évidemment, je vais tout de suite voir comment je vais réviser mon plan. Il me semble que dans beaucoup de cas tels que je les ai décrits, si j'ai ce désir opaque et qu'on me dit ce que motive ton désir, ça n'est pas accessible, tu ne peux pas l'avoir, je vais pas pouvoir tout de suite décomposer la structure instrumentale que j'avais déjà à l'esprit dans mon plan d'action pour en fait voir comment je vais devoir modifier mon plan ou comment je pourrais modifier mon plan. Je vais pas tout de suite me dire j'ai pas le moyen pour ma fin, mais je vais essayer de trouver un autre moyen, je vais essayer de trouver un autre instrument. En fait, il me semble qu'il y a un effort à fournir pour en arriver là. La première question à se poser, c'est tiens, mais quelle était la fin que je recherchais quand j'étais motivé à faire ça? Il me semble que c'est ce qui se passe dans ce cas de substitution, par exemple. Je vais au frigo avec l'idée de prendre une bière, peut-être même une bière d'une marque très précise, parce que je sais que c'est ce qu'il y a dans le frigo. Donc j'ai cette croyance qu'il y a ça dans le frigo, et donc tout de suite, ma soif a tout de suite suscité un désir très précis pour cette bière. Puis j'ouvre le frigo et puis je me rends compte qu'en fait j'avais tort. Il n'y a pas de bière ou il n'y a pas de bière de cette marque. Il va y avoir un moment de pause, à mon avis, qu'il n'y aurait pas si j'avais dans ma tête une structure instrumentale déjà très claire. Je suis allé au frigo parce que j'ai soif, je veux me désaltérer, la bière est un moyen de se désaltérer. Si c'était ça, tout de suite je me dirais « Ah, pas de bière, cherchons un autre moyen de me désaltérer. » Si je ne savais pas vraiment ce que je cherchais avec cette bière, parce qu'en fait c'était un désir opaque, je vais avoir ce moment de pause et ce moment d'élucidation de ce que je cherchais vraiment, qui me paraît plus militer en faveur de l'hypothèse où il n'y a qu'un seul désir. Mais encore une fois, je pense qu'on peut faire fonctionner l'autre option théorique. C'est juste qu'elle me paraît coûteuse pour rien.
J'ai aussi une question sur... c'est pas vraiment dans les références et dans la littérature que vous utilisez, mais par exemple, quand il y a des personnages historiques comme Aristote qui dit on désire tous être heureux ultimement, ou quand par exemple Thomas d'Aquin dit que on désire tous l'union avec Dieu, même si on sait pas, c'est l'idée des désirs opaques, ça pourrait être un peu sympathique pour ce genre de vue, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un grand... Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ça, en fait, c'est l'ensemble... Ça renvoie un petit peu à cette hypothèse que j'ai évoquée, qu'en fait, chaque désir aurait en fait pour objet non pas un type de satisfaction précis, mais la satisfaction en général, ou alors une satisfaction précise, mais toujours la même.
Quoi. Oui.
Il me semble que l'objet des désirs qui m'intéressent est plus spécifique. Donc du coup, si on adopte ce type d'hypothèse, en fait, on sera obligé de dire que ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, en fait, contrairement à ce que j'ai dit, c'était pas des désirs intrinsèques, c'était en fait des désirs extrinsèques, instrumentaux, derrière lesquels se cache l'ultime désir intrinsèque opaque pour le bonheur ou l'union avec Dieu. Et pourquoi pas? Mais du coup, ça déborde complètement de ce dont j'ai pu parler aujourd'hui, parce que là, on parlerait d'une opacité en fait beaucoup plus radicale, dans le sens où je prendrais moi-même pour intrinsèque des désirs qui en réalité ne le sont pas. Il me semble que l'expérience, c'est quand même d'avoir une expérience pour un type de satisfaction, et que je ne substituerais pas n'importe quel type de satisfaction. Si la bibliothécaire me dit, bah, ça, c'est un super livre, je dis, ah, non, moi, je veux quelque chose de plus précis. Je veux un livre super peut-être, mais qui réponde à mon désir.
Merci Philippe, merci à tous pour la discussion.
Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.